les rendez-vous de Rosendo. Les rendez-vous de Rosendo tous les dimanches à 13h, rediffusion le mardi à 23h, et aujourd'hui, Rosendo, tu reçois Marie-Noël.
Bonjour à tous et bienvenue à notre émission dernière de la saison, parce que nous allons finir avec notre invité Marie-Noël Coulon, notre cycle d'entretien avec ses rendez-vous hebdomadaires. Bonjour Marie-Noël.
Bonjour Rosendo.
Je disais que c'est le dernier de la saison parce qu'avec toi on clôture cette série d'entretiens, puisque notre émission va prendre des vacances et nous reprenons en septembre. Marie-Noël, tu es née quelque part dans les Tarn, et ça me fait penser à une petite introduction de Cervantes au moment qui présente un chevalier de la Manche né dans un lieu où je ne me souviens pas. Et quelque part dans les Tarn, ça fait penser un petit peu mystérieux. Tu voulais pas dévoiler les villages où tu es né?
Oui, oh, c'est un tout petit secret qui n'en est pas un au final. Non, non, pas du tout. Je suis née dans le Tarn, à Lavaur précisément, qui n'est pas internationalement connu, bien sûr, mais voilà, bon, qui est dans le cœur du pays du pastel.
Ah, très bien, très bien. Donc, Marie-Noël, tu es enseignante en éducation musicale et histoire des arts depuis 2002.
Oui.
Mais tu as eu une formation du conservatoire. Donc, tu as une formation tout à fait classique.
Oui.
Et
c'est ça.
Alors, raconte-nous dans ta campagne de labour et comment ça s'est fait que tu as eu cette sensibilité pour la formation musicale classique.
Eh bien, c'est vrai que dans ma campagne de labour, comme tu dis, on n'était pas forcément prédisposés, ni moi ni ma sœur d'ailleurs, à s'intéresser forcément à la musique classique, si ce n'est que notre père est chansonnier. Donc on a été très tôt initiés en fait à la musique populaire, traditionnelle on pourrait dire. Et je faisais du piano toute petite. C'est un instrument qui m'a toujours plu, on m'a donné l'occasion d'en faire et finalement je devais me débrouiller pas si mal que ça, puisqu'un jour mes parents ont eu l'idée de me faire passer une audition au conservatoire pour essayer d'évaluer mon niveau en fait, et bon, j'y suis rentrée. Et voilà comment les choses ont débuté, d'abord par l'apprentissage du piano, long apprentissage. Parce que j'ai quand même un parcours de 10 ans de conservatoire. Donc...
Des Albi
Ah non, pas du tout, à Toulouse.
À Toulouse, voilà. Oui, oui.
Voilà, donc je suis rentrée dans la grande école, on va dire.
Oui.
Venue effectivement d'un milieu rural, c'était particulier, parce que c'était un choc de culture. Hein. Parfois, on n'a pas besoin de faire des milliers de kilomètres pour se retrouver confrontée à une culture différente. Et ça a été mon cas, je suis passée d'une culture populaire à une culture savante, que j'ai intégrée, et qui m'a permis finalement de pouvoir au final essayer d'intégrer les deux. Voilà, je ne suis pas d'origine géographique diverses et variées comme tu peux l'être par exemple, mais je suis un mélange de cultures aussi.
Ah oui, alors raconte-nous un peu tes racines alors.
Eh bien, comme je te disais, donc j'ai des racines régionales en fait, et donc des racines musicales et culturelles populaires. Et j'étais en train de l'expliquer, ma formation au conservatoire et universitaire qui a quand même été très savante et finalement assez poussée. Hein.
Il n'y avait pas eu de télescopage entre ces versos ruraux, c'est une chanson populaire que ton père interprétait, qui interprète encore parce que je connais ton père.
Oui.
et c'est ta musique écrite savante, comme tu dis, et
oui,
qui
bah
a
si.
Parfois une aura un peu sacralisé.
Et oui, bien sûr. Donc déjà, il a fallu que je rentre dans cet univers-là, qui était pour moi, c'était une langue étrangère. Hein. Mais bon, je parle d'il y a bien longtemps. J'avais 10 ans à cette époque-là. Et c'est un langage que j'ai intégré petit à petit, comme on intègre une langue, comme on apprend une langue, pardon. Et au final, eh bien, j'ai fait mon bout de chemin au milieu de cette culture. passant du piano à la voix de façon progressive et
oui, aujourd'hui, à la voix on arrive justement, à la voix on arrive, mais avant je voudrais revenir à l'écriture parce que en revenant faire cet entretien et je repassais dans ma mémoire un concert tout à fait récent du conservatoire de Montauban. Il y a eu son dernier concert, le spectacle de fin d'année. Et j'étais tout près de la pianiste. Je crois qu'elle s'appelle Émilie. Oui, son prénom c'est Émilie. Et donc j'observais tous ses mouvements et la manière comment elle lisait ses partitions. Et à côté d'elle, il y avait un autre musicien qui lui tournait les feuilles. Mais j'étais un peu captivé par la manière comment il lisait la partition. Bon, tu vas me dire, ça c'est naturel pour toi de lire les solfèges, de lire cette écriture musicale, ces langages, comme tu dis. Parce que pour moi, c'est des Chinois, dans le sens propre et figuré, hein, parce que j'ai appris les Chinois adultes en Chine, à Pékin, et du coup, chaque idéogramme a un son et une traduction. Je me disais que les langages écrits et par, pour la musique, et ça fait peser, ça fait penser à cette transposition d'un son. Et je voyais comment ils lisent. Pour vous, les musiciens, c'est quelque chose de banal, quelque chose.
Ah, mais... pas pour tous les musiciens. Hein?
Ah non.
Ah non.
Ah oui, c'est vrai qu'Elton John, par exemple, il lit pas, ou il y a des autres musiciens qui. Dieu d'oreille.
Oui.
Oui, oui. Mais pardon, je t'ai coupé. Tu voulais dire quelque chose.
Non, justement, je voulais. J'étais en train d'écouter, bien sûr, ce que tu disais. Et c'est vrai que c'est un langage. Comme le chinois, qui, moi, me paraît assez hermétique. Finalement, beau d'un point de vue graphique, mais hermétique. Je parle de l'écriture. Et effectivement, l'écriture musicale, je le vois par exemple avec mes élèves qui ne lisent pas, enfin du moins les collégiens lisent rarement la musique en fait. Et quand je leur montre une partition, ils la trouvent intéressante d'un point de vue graphique, du moins ça les interpelle, mais ils ne la lisent pas. Et c'est vrai que c'est un langage assez hermétique, qui peut être également hermétique à beaucoup de musiciens. Puisqu'il y a la musique ne passe pas forcément par la lecture de l'écriture, et heureusement, parce que ça fait longtemps qu'on aurait perdu de belles traditions. Mais ceci dit, il y a de toute façon un clivage entre musique orale et musique écrite qui tend à durer malgré les limites qui pourraient s'estomper par les multiples pratiques des gens et maintenant la mondialisation de l'art. Mais c'est vrai que souvent tu entends encore dire des gens « Oh mais vous êtes des musiciens, vous lisez la musique ». Alors qu'effectivement, être musicien, ce n'est pas lire la musique.
C'est un des schémas pour arriver.
Mais c'est un des schémas.
Oui.
Et c'est un schéma long et difficile d'accès, c'est vrai.
Les schémas.
Comme une langue, finalement.
La voix, je voulais arriver à la voix. Alors, il y a eu un moment où tu t'es dit, moi, non seulement je vais jouer le piano, mais je vais chanter.
Mm-hmm.
Et quel a été le déclenchement pour passer à chanter? Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui t'a marqué, qui t'a influencé?
J'ai toujours entendu mon père chanter déjà, donc c'est vrai que ça commence en fait par une imprégnation familiale. Je ne peux pas te parler d'un déclic précis, d'un événement qui m'aurait marqué et que je pourrais, tu vois, resituer dans le temps. Je pense que c'est une histoire donc d'imprégnation progressive et j'ai toujours été attirée par la voix parce que la voix, c'est le premier instrument. Le problème du piano, pour moi, c'est l'aspect un peu meuble de l'objet, finalement. C'est-à-dire, tu communiques avec ton piano, mais au final, est-ce que ton piano, tu domines ton piano, ton piano te domine? Enfin, il y a une histoire très compliquée, finalement, avec cet instrument qui est, en plus, très imposant, très savant dans l'imaginaire collectif. Et la voix, c'est toi. La voix, c'est ton identité. La voix, c'est ta voix parlée. La voix, c'est ce que l'on perçoit en premier d'une personne. Par exemple, au téléphone, tu n'as pas les yeux, tu n'as pas le regard, tu n'as pas...
Mais c'est un des... On dit que l'instrument plus beau de la nature, c'est la voix.
Et bien sûr. Enfin, moi, je le pense, en tout cas.
Oui. Et donc, tu voulais te conduire vers ce qui est passé, ce qui est arrivé dans... il y a 10 ans. Il y a eu une chanteuse. qu'on va découvrir et qu'après tu vas nous présenter cette chanteuse-là qui t'a beaucoup marqué, Marie-Noël.
Une vieille casquette et des chaussures délacées, une chemise ouverte sur un cœur mal attaché, la serviette entre les épaules et les oreilles, lourde de sable et de soleil, à moitié femme et à moitié petite fille, presque solide mais encore un peu trop fragile, avec comme une perle en moins dans ma coquille. J'ai quitté l'île avec ce sentiment d'oublier quelque chose. Je suis montée à l'arrière de la Pontiac de mon père. Comme je n'ai pas su garder mes paupières closes, j'ai regardé s'éloigner les dunes et la mer, les genoux encore couverts de boue et de boue d'algues, et la bouche encore pleine du goût de ta peau. J'ai écouté se taire le vent et les vagues, puis se déchaîner ma colère et mes sanglots. Endormie dans une boîte depuis des années, comme dans un coffre au trésor mal enterré. Il y a une casquette et des chaussures démodées, lourdes de sable et de poussière. Certains printemps dans mes folies de grand ménage, en retrouvant ces petits vestiges de voyage, je retrouvais du même coup le grand vertige que j'avais sur l'île, avec ce sentiment d'oublier quelque chose. Je remettais la boîte à sa place avec soin. Je n'ai jamais su garder mes paupières closes quand mes yeux se mettent à pleuvoir de vieux chagrins. Puis j'émergeais de la chambre à débarras, rêveuse, avec les joues toutes rouges et les cheveux emmêlés, comme un fantôme d'adolescente amoureuse, la bouche encore marquée de son premier baiser. Puis en ramassant mon journal un beau matin, dans la boîte aux lettres en bordure du chemin, en robe de nuit et en pantoufles au grand soleil, lourde d'ennui et de sommeil, j'ai trouvé parmi les encarts publicitaires un petit mot signé d'une main familière qui du coup me ramena des années en arrière, là-bas sur l'île. Avec ce sentiment de retrouver quelque chose, j'ai couru jusqu'à l'endroit où tu m'attendais. Il y a de ces vœux parfois que le hasard exauce, comme une réponse à toute ma vie qui s'embrouillait. Je devais avoir un grand sourire de petite fille quand j'ai serré si fort la main que tu tendais, que j'ai senti s'amonceler dans ma coquille toutes les perles de l'Atlantique au grand complet.
Eh bien, vous venez d'entendre Linda Lemay, Les Perles de l'Atlantique. C'est une chanson extraite de l'album Le Secret des Oiseaux. Et Linda Lemay, vous l'aurez compris, c'est donc une de mes chanteuses préférées, voire peut-être ma chanteuse préférée, du point de vue de la poésie de ses textes, de la magie de ses arrangements, avec ce piano magnifique que vous avez entendu par exemple dans cette chanson. Mais j'aurais pu choisir aussi une chanson orchestrée en fait. Il y a énormément de variété dans ce qu'elle fait du point de vue de l'arrangement musical. Et puis cette voix qui est simple et qui est porteuse de grandes émotions, qui est belle de simplicité et sophistiquée à la fois. C'est ce que j'aime, je pense, chez elle.
Est-ce que serait trop peut-être hardi de dire que ta tessiture vocale, Marie-Noël, est proche de celle de Linda Lemay? Parce que je t'ai entendu chanter. Mm-hmm. Et parfois, j'entendais certains échos des intonations des articulation qui me semble il y a une influence. Peut-être je joue l'avocat du diable.
Bon, ça me plaît bien. Hein, comme Alors tu peux continuer à faire l'avocat du diable, je pense.
Oui,
que...
mais pour certains artistes, ça pourrait être plutôt dérangeant de dire qu'il y a une influence.
Est-ce qu'il y a une influence vraiment dans la voix? Ça, je peux pas le dire parce que j'ai une... Comme j'ai un travail lyrique derrière la voix, je ne suis pas sûre de pouvoir atteindre ce niveau de pureté vocale qui est le sien, c'est-à-dire sans vibrato. Mmh. Maintenant, une influence dans les inflexions.
Dans les inflexions, oui. Oui, parce que surtout quand elle, dans la chanson qu'on vient d'écouter, quand elle dit « J'aime parmi les encarts publicitaires », là, je me suis dit, mais là, cette inflexion, je la retrouve aussi chez Marinelle. Tu te souviens de cette...
Oui.
Tu peux la chanter, là? Je ne sais pas si on peut improviser. Non, d'accord. Bon, alors tu me disais que oui, tu te retrouves dans cette inflexion.
Oui, je me retrouve dans cette inflexion, dans cette façon de faire. Disons que quand on aime un artiste, on fonctionne par mimétisme.
Oui, on se construit aussi. On se construit avec plus sur l'influence de mimétisme, oui.
Et oui, voilà. Et tu vois, par exemple, je me suis construite avec la chanson réaliste aussi. Par exemple, en vrac, je vais te citer Fréhel, mais surtout Édith Piaf. Tant et si bien que quand j'ai fait du lyrique, j'avais du mal à savoir rouler les airs.
Ah oui?
Et oui.
Et comment ça s'explique ça? Parce que normalement, tu roulais bien les airs.
Et non, parce que dans la chanson réaliste, ce sont des airs vélaires, en fait.
Alors explique-moi ça, parce que je ne comprends pas trop.
Eh bien, en fait, tu as plusieurs façons de prononcer, suivant les langues et suivant les régions. C'est vrai qu'ici, par exemple, on a tendance à rouler les airs, surtout
dans
les milieux, voilà, dans les milieux ruraux. Et moi, j'étais influencée par cette chanson. Elle est québécoise, donc c'est encore autre chose.
Mais
j'étais influencée par cette chanson réaliste où les airs sont des airs très marqués et pas du tout des airs du sud en fait, puisque c'est la chanson rive gauche parisienne. Donc quand je me suis mise au lyrique et que j'ai dû chanter par exemple en italien ou même en espagnol dans une certaine mesure, j'ai eu du mal à rouler les airs. J'ai des airs qui viennent de la chanson française.
Et tu le trouves trop rocailleuse, si tu prononces la manière espagnole? Est-ce que tu trouves musicalement parlant un petit peu forte la manière de rouler les airs si tu dois chanter en italien?
Oula,
ou
je vais me faire des ennemis en disant ça, je le sens.
Ah, je sais pas, je te tends la perche comme ça. Hein. C'est pas un piège.
Je suis plus attirée par la langue italienne déjà que la langue espagnole. Parce qu'effectivement, je la trouve plus mélodique, plus mélodieuse. Et en partie, à cause ou...
Grâce.
Je sais pas si on peut dire grâce, là. À cette prononciation et ces R qui sont plus...
Tu avais parlé de Vélaire. Alors, ça, c'était une R Vélaire.
Ou ce que tu fais?
Oui, par exemple.
Oui, c'est-à-dire ces airs qui sont...
La vie en rose, par exemple.
Et oui, ces airs qui raclent, en fait, qui sont les airs rocailleux de l'existence, j'ai envie de dire, chez Édith Piaf, parce qu'elle s'appuie dessus. Il y a comme une tension psychologique à travers cette façon de prononcer aussi. C'est les airs arrondis que l'on trouve dans la musique classique qui sont... On jouivait, on va dire. C'est une esthétique qui passe derrière ça aussi, tu vois.
Oui, oui. Alors, puisque tu as mentionné la musique classique, alors là, c'est une autre paire de manches. Là, c'est une autre préparation.
La musique classique?
Oui.
Ah oui.
Oui, là.
Ah oui.
Alors, c'est la musique lyrique.
Ah oui, c'est une autre paire de manches, la musique lyrique, effectivement.
Alors, tes influences, alors, pour cette musique lyrique, alors.
Alors, moi, je suis très, très people de la musique lyrique. Hein.
Alors,
je reste très très attachée envers et contre tout à des chanteuses comme Nathalie Dessé ou Philippe Jaroussky.
Oui, je te laisse finir, oui, et vas-y, pourquoi tu dis people?
Parce que ce sont des gens qui ont fait une carrière ou qui font une carrière lyrique extraordinaire et qui en même temps...
Mais pas les cas de Nathalie. Hein. Nathalie Dessay, il a arrêté.
Oui, et voilà, c'est qui font ou qui ont fait. Mais Nathalie Dessay, elle a arrêté sans arrêter vraiment parce que tu vois, je vais la voir au Liceo de Barcelone en novembre sur des... C'est un répertoire autour des airs de Handel, donc des airs baroques.
Elle
a arrêté, je pense qu'elle a arrêté pour l'instant sa carrière de chanteuse d'opéra. Mais elle garde un aspect lyrique à travers la musique ancienne, par exemple.
Oui.
Et puis elle s'intéresse à la bossa nova, plein de choses.
D'ailleurs, je suivais un peu le parcours de Nathalie Dessay, et elle affirmait que le milieu de l'opéra, il avait eu pas sa claque, non, mais elle voulait peut-être faire une parenthèse, mais il semblait plutôt se séparer. Pour attaquer la musique de Legrand.
Michel Legrand.
Michel Legrand, oui. Donc, du coup, on revient à ce côté people. Mais je voulais pas les dire, je voulais que tu nous expliques un petit peu. Est-ce que chanter en français, la chanson plus colloquiale, plus audible, est-ce que ça nous fait plus people? Parce qu'on dirait pas presque la musique de variété.
Ah ben ça en est quelque part, sauf que Michel Legrand c'est de la variété de haut vol quand même, hein. Déjà, hein, faut recadrer un petit peu les choses, hein. C'est un très grand pianiste, un très grand arrangeur, et puis les textes, la musicalité de ces chansons sont quand même savantes. Voilà. Donc elle ne fait pas quand même le grand écart finalement, hein. Après, non, c'est dans l'attitude qu'elle est un peu people, c'est un peu pour ça qu'elle est décriée, elle fait des émissions de télévision, bon voilà, puis elle a cette façon aussi de dire, d'avoir un air un peu revêche par rapport au milieu classique, elle démantèle les codes en disant, bon mais finalement moi le classique, j'en ai eu ma claque, effectivement j'ai entendu dire ça plusieurs fois, j'ai eu l'occasion aussi de lui parler à Nathalie Dessay dernièrement, donc ça c'était un moment qui m'a... Ravi.
Oui, mais quelque part, cette attitude un peu iconoclaste qu'on pourrait faire les artistes, je ne parle pas seulement des chanteurs, c'est ce qui va faire une différence. Mmh. Et quelque part, en parlant de manière marketing, va te différencier, va te marquer et te faire détacher du groupe, parce qu'il y a une concurrence énorme. Mmh. Si on ne fait pas ce genre de people, entre guillemets, et on ne se fait pas remarquer, et du coup, on travaille comme un agent commercial, mais je ne le dis pas dans le sens péjoratif, hein. Je le dis dans le sens de pouvoir exister. Si tu ne fais pas un scandale, si tu ne fais pas, je ne sais pas, ce genre d'entretien, tu ne te fais pas remarquer par un producteur ou par le public.
C'est bien malheureux d'ailleurs. Bon, enfin... De toute façon, si on prend le cas de Nathalie Dessay, c'est dernièrement qu'elle a commencé à faire des émissions, on va dire, de variété. Parce que durant sa carrière lyrique, on la connaissait juste comme artiste lyrique.
Oui.
Et elle était plutôt interviewée dans le monde de la musique que dans... le monde de la musique, c'est un magazine en fait. Hein, ça, voilà. Que dans un magazine People. Donc, c'est un retour de, enfin, c'est une continuation de carrière. C'est un débouché, enfin, avec l'autre débouché qui arrive maintenant à elle par l'intermédiaire du cinéma, parce qu'elle va aussi faire de travail d'actrice maintenant. Donc par cet intermédiaire-là, le théâtre, le cinéma, Michel Legrand, elle se rapproche d'un côté aussi people. Mais je pense que la musique classique, de façon générale, aurait beaucoup à gagner à être plus proche des gens.
Et en opposition à ces spectacles, à cette peopleisation dont tu parles, dont nous parlons, il y a un autre artiste qui t'a beaucoup marqué et dont tu as fait même des florilèges, tu as fait même un spectacle, plusieurs concerts, un album aussi.
Mm-hmm.
Et je parle de Ferrat.
Oui, Jean Ferrat.
Donc, on l'écoute un moment ?
Allons-y.
Comme une étoffe déchirée, on vit ensemble, séparés. Dans mes bras, je te tiens absent. Thank you. ciel nous est mesuré. Ceci veut dire que je t'aime. Cette existence est un adieu, et tous les deux nous n'avons Dieu que pour la lumière qui baisse. Chausser les bottes de sept lieues en se disant que rien ne presse. Voilà ce que c'est qu'être vieux. Ceci peut dire que je t'aime. C'est comme si jamais, jamais je n'avais dit que je t'aimais, si je craignais que me surprenne. La nuit sur ma gorge qui met ses doigts gantés de souveraine, quand plus jamais ce n'est le même. Les choses plus ne sont qu'un souvenir de nos frissons, un écho des musiques mortes. Demeure la douleur du son qui plus s'éteint, plus devient forte. C'est peu des mots pour la chanson.
On vient d'entendre « C'est si peu dire que je t'aime » de Jean Ferrat sur un texte d'Aragon. Et c'est une interprétation personnelle, puisque effectivement, il y a 3 ans de ça, avec mon compagnon, on a commencé à s'intéresser de très près aux chansons d'Aragon. C'était évidemment au moment où... Jean Ferrat, enfin aux chansons de Jean Ferrat sur le texte d'Aragon, pardon. C'était au moment où Jean Ferrat est décédé et on a eu envie de lui rendre hommage, voilà.
J'ai assisté et je peux témoigner d'un de tes concerts, c'était à Briatexte.
Oui.
Oui. Et quand tu interprétais cette chanson, bien sûr, il y avait tout un silence dans la salle. Et comme j'ai eu le privilège de pouvoir projeter quelques croquis sur le vif à l'écran, Dame, je pense de l'avoir dit, est venue me parler à la fin. Il me dit, c'est ta chanson, si peut dire que je t'aime, là. Et cette jeune fille, Marie-Noël Coulon, vous l'avez dessinée. Est-ce que je pourrais avoir cette image? Je pourrais avoir, parce que maintenant je viens d'acheter l'album, je vais acheter les dessins. Mais je lui ai dit, mais les dessins... c'est gratuit, hein, mais vous allez le voir sur mon site, etc. Mais ce que je veux dire, c'est la réaction du public qui était très émue en écoutant ta voix, en écoutant une chanson qui a popularisé Jean Ferrat sur les textes d'Aragon.
Oui.
Et je t'entendais, je t'assure, hein, peut-être que je dois confesser mon ignorance, mais c'était la première fois que je t'entendais chanter. J'avais entendu parler de toi. Mais je ne t'avais pas entendu chanter. Et là, c'est une occasion magnifique, comme tu viens de le démontrer avec cet enregistrement de « C'est si peu de dire que je t'aime ». Et combien de temps ça a duré la construction, la constitution de cet album? Parce que vous avez dû quand même vous bagarrer pas facilement, hein, pour construire tout ça.
De toute façon, ce sont toujours des projets... écrire un livre, faire un album, sont des projets longs et qui nécessitent du temps et de l'investissement. Donc c'est vrai qu'on y a passé du temps, mais le principal objectif n'était pas de faire un album en fait. On a monté un spectacle pour le Festival d'Avignon. C'était donc en 2011 et c'était une belle aventure humaine. Pas mal de gens sont venus nous demander à la fin des spectacles si on avait quelque chose justement à leur proposer pour qu'ils puissent réécouter chez eux. Et l'idée de l'album est venue
après.
Voilà, à ce moment-là. Donc on a récupéré les coordonnées des gens intéressés en leur disant que si on faisait quelque chose, ce serait les premiers à être informés. Et on est rentré avec l'idée donc de continuer cette aventure d'Avignon pour tout le monde finalement, et notamment pour les gens qui étaient là. Oui. Et l'album s'est fait dans la foulée.
Oui, j'ai eu le plaisir de retrouver dans cet album, dans ces concerts, Marie Lugan et Boris Lugan, qui est ton compagnon. Mm-hmm. Et je veux mentionner que tu es aussi, si tu le permets, l'agent artistique de Boris.
Oui, je suis l'agente artistique de Boris Lugan, effectivement. Mm. Bon, enfin, c'est un bien grand mot, mais j'essaie, par l'intermédiaire de l'association culturelle que nous avons créée, qui s'appelle Art d'Autant, eh bien, j'essaie de m'occuper un peu, oui, du travail de promotion de Boris, qui est artiste peintre et...
Contemporain.
Et contemporain, voilà, c'est la peinture abstraite. Oui. Donc, c'est un monde particulier et qui nécessite que l'on s'en occupe. C'est-à-dire, une chanson, ça s'entend, c'est instantané. Une peinture, je trouve que l'accès est un peu plus difficile. Il faut l'amener, il faut l'apporter à la connaissance des gens, il faut expliquer, il faut faire un travail de découverte qui n'est pas forcément nécessaire avec la chanson. Voilà. Donc, effectivement, j'essaie de... Et puis, bon, d'un point de vue vraiment, alors, j'ai envie de dire administratif, bon, bah, faire des expositions de peinture, ça nécessite un travail de démarche, un travail de suivi. Donc, à mes heures perdues, j'essaie effectivement de m'y coller.
Donc, je voulais revenir un peu à l'art pictural, parce que Boris est un peintre. Et parmi tes goûts picturaux, Marie-Noël, il y apparaît Marc Chagall. Je le cite à ce moment de notre émission, parce que j'aime bien faire les portraits de chaque artiste et de chaque invité à travers ses goûts picturaux, parce que, bon, je prêche pour ma paroisse.
Oui, bien sûr.
Oui. Donc, Marc Chagall, et surtout, je veux le rejoindre au début de notre conversation par rapport à l'art spectaculaire, à l'art qui nécessite être partagé, bien sûr, mais après, chaque artiste choisit s'il va le partager de manière spectaculaire, avec des coups de marketing, avec des scandales, ou le fait dans une logique plus personnelle, plus intime, peut-être isolée, mais... Un peu comme a fait Ferrat, non? Parce que lui, il passait pas trop, il était pas trop people.
Non, pas du tout. Même il a été censuré. Oui. Et la transition est toute trouvée, effectivement, avec Marc Chagall, qui a été classé art dégénéré pendant l'époque nazie. Donc, effectivement, j'ai une attirance aussi pour la... Ça doit être ça, mon éducation qui joue là, qui parle pour moi. J'ai une attirance pour les gens qui ont été malmenés par la société de, j'ai envie de dire, de consommation, en tout cas de mass média. Et Marc Chagall en a fait partie, comme Jean Ferrat.
Oui. Et Marc Chagall, parmi ses œuvres, il y a une qui m'a particulièrement touché, c'est le plafond de l'opéra Garnier, parce que Charles Garnier, c'était un peintre aussi et architecte.
Oui.
Mais le défi de Chagall, c'était comment travailler son style, mais en même temps respecter l'environnement. Et quelque part, être en décalage avec l'architecture du Palais Garnier. Parce que tous les dorés de l'architecture Garnier, tous ces classiques, toute cette structure des 18e et 19e, il fallait coller quelque chose. Bon, ceci dit, il faut se rappeler que c'était Malraux, le ministre de la Culture, qui avait fait la commande. Et du coup, Marc Chagall, d'abord, il a dit « je ne vais pas être rémunéré ». Et il a fait une série des allégories avec ces vaches vertes, avec des taureaux, des guitaristes qui sont suspendus, avec des barbes bleues, tout cette couleur acidulée qui le caractérisait, presque surréaliste, non? Mais je vais plutôt revenir au fait que ça a créé un scandale quand même, comme ça a été la tour Eiffel, qui est décalé par rapport à l'architecture de Paris, comme ça a été une autre initiative aussi avec le Louvre, avec la pyramide du Louvre, avec l'architecte Topay, ou les colonnes de Buren.
De Buren, oui.
Donc, tu vois, on en parle de ça parce qu'il a choqué. Est-ce que, et dans le cas de Marchagall, il a choqué aussi avec ses couleurs un peu chatoyant, un univers presque enfantin, onirique, mais très, très, très rêveur, et qui n'avait rien à voir, en principe, avec l'architecture des dorés, l'architecture de Charles Garnier. Donc, je me pose la question, et peut-être je partage ces doutes. Est-ce que l'art, pour marquer les coups, il faut choquer, comme peut-être. Mais Marchagall n'obéissait pas à les scandales, simplement il obéissait à son propre style. Mais dans l'histoire de l'art, on voit, et toi aussi, tu es enseignante dans l'histoire de l'art.
Oui.
Est-ce que c'est nécessaire passer par là, c'est-à-dire cette peopleisation? Ben, dans les cas, c'est pas les people, c'est pas l'adjectif, mais disons, c'est la manière de se démarquer.
Ça, c'est une éternelle question à laquelle je ne peux pas trop répondre, dans la mesure où je suis partagée. Je pense qu'effectivement, à un moment donné, la nécessité de... Je ne sais pas si c'est une nécessité de choquer. En tout cas, il est évident que dans notre existence si fragile et si courte, si tu continues à perpétuer une longue tradition sans te démarquer, tu te situes dans une continuité qui ne te permet pas d'exister dans ton individualité. Alors je pense que le fait de choquer, c'est le fait de vouloir exister. C'est terriblement humain, finalement. Donc c'est une nécessité du point de vue de l'être. Est-ce une nécessité du point de vue de l'art? La question peut se poser. Et puis ce qui choque à un moment donné ne choque plus après. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que la personne a vraiment fait évoluer l'histoire de l'art à un moment donné et finalement le temps passe dessus, le temps arrondit et tout s'inscrit dans une continuité? Ou est-ce qu'au moment où on a eu l'impression qu'il y avait un choc, c'était pas finalement si choquant que ça. Est-ce qu'on contribue vraiment à une évolution de mentalité par une œuvre aussi, par un individu? Est-ce que tout ça ne s'inscrit pas plus largement dans une période? On parle souvent d'un artiste qui choque, moi je dirais plutôt que c'est à un moment donné eh bien une société qui évolue et cet artiste-là est mis en avant comme une figure de proue, mais finalement c'est tout le reste derrière qui est en train d'être en période de mutation. C'est pas seulement un artiste.
Marie-Noëlle Coulon, tu es aussi enseignante, je l'ai déjà dit, je le répète, au risque d'être un peu rébarbatif, mais je vais signaler jusqu'à la fatigue que tu es artiste, musicienne, pianiste, voix et enseignante. Donc, tout ce que nous venons de discuter, comment c'est traduit? Parce que tu travailles au lycée français, comme tu as des fois au Principauté d'Andorre. Comment ça se passe, toi, artiste, toi, enseignante, quand tu es confronté, ou peut-être que les mots sont un peu excessifs devant les élèves?
Alors, pendant mes premières années d'enseignement ont été difficiles dans l'acceptation de la position. Parce qu'effectivement, tout le monde le sait, il est très difficile de vivre de son art. Je suis rentrée dans l'éducation national, pas forcément par conviction, mais un peu par sécurité. Et je me suis prise au jeu parce que au final, finalement, avoir tous ces élèves en face, toutes ces personnalités émergentes, parce que je travaillais avec des adolescents, c'était fantastique d'un point de vue humain de pouvoir leur apporter une découverte artistique, parce que mon rôle est là en tant que professeur de musique et d'histoire de l'art. Donc je me situe dans l'enseignement comme dans la pratique artistique, en mettant au centre de tout ça l'émotion humaine. Et en ce sens-là, le fait d'avoir une pratique artistique à côté solide, on va dire, me permet d'arriver en classe avec quelque chose que j'espère être intéressant pour ces élèves-là, que je peux transmettre ma personnalité artistique. Enfin, j'ose pas trop dire ça fait un peu prétentieux, mais cet aspect-là que j'ai en moi me permet de nourrir mon enseignement et de pouvoir apporter quelque chose, je pense, enfin j'espère en tout cas, d'humain auprès de ses élèves. Vous voyez, c'est pas de la, je ne fais pas d'apprentissage froid, ça ne m'intéresse pas. J'essaye de transmettre une émotion. Pour ce dernier extrait musical, je vous ai apporté, et on a entendu donc une... Alors j'ai envie de dire une chanson, mais non, ce n'est pas une chanson, mais l'esprit est là en tout cas, parce que c'est un côté très... très facile d'accès, très d'un point de vue très, très très beau finalement. Ça s'appelle The Seal Lullaby. Finalement, on pourrait traduire ça par la berceuse du phoque. C'est d'un compositeur contemporain qui s'appelle Whittaker, et avec l'ensemble vocal dans lequel je chante, qui s'appelle Bagatelle, dont vous avez entendu l'interprétation à l'instant. Eh bien, nous avons travaillé sur ce répertoire et nous travaillons toujours d'arrache-pied d'ailleurs pour mener à bien notre objectif, qui est de faire vivre la musique pour chœur de chambre féminin.
Marie-Noëlle, mais tu chantes, mais aussi tu joues des pianos là-dedans.
Ah non, ce n'est pas moi.
C'était pas toi.
Et non, ce n'est pas moi. Moi, je fais partie des sopranes qui chantent.
Ah oui, là, tu es pas pianiste, tu es partie des sopranes.
Oui, dans le. Alors, tu vois, dans l'extrait que nous avons entendu tout à l'heure de Jean Ferrat, effectivement, au piano, c'était moi. Mais là, non, je laisse la place à Yuleika, qui est notre pianiste du chœur de chambre, oui.
Donc, je rappelle à nos auditeurs que Bagatelle, ça s'écrit B-A-G-A-T apostrophe, L-E-2-L-E-S. Mm-hmm. C'est un ensemble composé de 12 chanteuses et une pianiste dirigée par Didier Ouellet.
Oui.
C'est bien ça?
Oui.
Et c'est selon la présentation que vous faites, c'est, vous vous définissez comme une démarche, comme un ensemble de démarches individuelles, musicales et vocales. Oui. Mais c'est ça que je trouve un petit peu bizarre.
Ah,
peut-être que
d'accord.
Tu vas me dire comment oui. C'est possible, dans une passion commune pour le mm-hmm. répertoire vocal polyphonique qui réunit des musiciens autour d'un projet collectif, voilà, une démarche individuelle, musicale et vocale, etc., à la voisin, à la fois exigeante et rigoureuse.
Oui, en fait, c'est parce que nous sommes toutes chanteuses lyriques à la base. Donc on a une individualité et une voix très marquée, un caractère vocal en fait, pour chacune d'entre nous. Et notre idée était de regrouper nos identités vocales au sein d'un projet commun. Mais ça part effectivement de chacune d'entre nous. On a l'envie de travailler ensemble et de proposer un projet où nos voix se mêlent, évidemment. Mais... on part de notre individualité aussi, parce qu'on trouve que c'est important pour le projet de ne pas être qu'une seule voix, mais de travailler toutes avec nos voix multiples.
Oui, puisque tu parles du projet, il y a le projet Passarelle. Passerelle, on ne le prononce pas comme ça?
Oui, on a plusieurs projets en fait, hein, actuels,
oui. Passerelle. Oui, je t'invite à parler de cela.
Oui, en fait, ces titres-là correspondent à des programmes particuliers de musique mm-hmm. qui sont axés sur les musiques actuelles, donc 20e et 21e siècle, puisque là, le Whittaker que vous avez entendu, ce sont les années 2000, hein, donc c'est mm-hmm. très récent. Mais suivant les contextes, suivant le type d'endroit où l'on va chanter, le type de festival et les attentes du public, eh bien, on a différents programmes qui vont, on va dire, du 18e, plutôt 19e jusqu'au 21e siècle.
Oui, et c'est à ce tour, on reparle des passerelles, mais j'avais compris que c'était aussi une passerelle entre l'Angleterre et l'Allemagne.
Alors, une passerelle entre l'Angleterre et l'Allemagne et
oui,
l'Italie et la France et les États-Unis et finalement beaucoup, beaucoup de pays, puisqu'on aborde des répertoires assez variés mm-hmm. et parfois méconnus.
Oui, j'ai lu des compositeurs de renom comme Mendelssohn, Schubert, Schumann, Brahms, Elgar, Holst, Britten, mm-hmm. Guitter. Donc, on se situe là entre 19e et 20e. Et aussi, parmi autres projets, maintenant il faudrait que je parle en pluriel de la première personne, parce que maintenant on parle des bagatelles. Et vous retrouvez Massenet, Gounod, Delibes, Berlioz, Viardot, Anne et Camille Saint-Saëns.
Camille Saint-Saëns. Ouais. Et la surprise du moment qui n'est pas indiquée sur notre plaquette de présentation, mais qui sera finalement l'axe central de notre travail pour le festival, le concert que nous allons proposer cet été, le 20 juillet, au Festival de musique classique de Cordes, puisque nous avons eu la chance de pouvoir sortir des cartons les mélodies françaises d'une compositrice méconnue appelée Charlotte Sauy.
Ah, tu m'avais parlé déjà.
Ah oui, Charlotte Sauy. Alors c'est notre petite Charlotte, comme on l'appelle, c'est-à-dire cette dame qui signait Charles d'ailleurs, tellement c'était difficile de se faire reconnaître en tant que compositrice à l'époque. Et Charlotte Sauy, qui est une contemporaine de Debussy quand même, donc et qui écrit majestueusement et pour la voix et pour le piano, n'est malheureusement pas écoutée, pas enregistrée. Et nous avons eu la chance, par son petit-fils, qui était directeur du Conservatoire du Tarn, de pouvoir travailler sur les manuscrits. Et nous en sommes très fiers et nous espérons être à la hauteur de son écriture. Et bien, si vous avez l'occasion de venir nous dire ce que vous en pensez.
Nous rappeler les dates et les lieux, c'est à Cordes.
Le 20 juillet à 17h30 au festival Musique sur Ciel de Cordes sur Ciel dans le Tarn. Oui.
Est-ce qu'il y a une autre date que tu voudrais nous faire passer, date et lieu
des... Par rapport à Bagatelle, les prochaines dates seront maintenant courant automne. Rien n'est vraiment trop arrêté. On a des concerts à Toulouse en décembre, au mois de septembre, octobre, on devrait chanter à la Collégiale de Lautrec, également dans le Tarn. Et puis on prépare un répertoire pour l'étranger. Donc pour l'instant, on n'a pas trop de dates ici et on prospecte plutôt ailleurs, en fait. Mm-hmm. Voilà. Mais si j'ai d'autres dates à te faire passer de précises, je manquerai pas de te les donner.
Oui, mais de toute façon, il y a les sites qui sont facilement accessibles, non? Les sites internet des Bagatelles.
Oui, on est en construction de sites internet. Alors, il y a la page Facebook déjà, que les auditeurs peuvent consulter. Je pense que c'est déjà le plus simple. Et le site, je vous dis, on est en train de le finaliser, mais tout prend beaucoup de temps. Donc, je n'ai pas forcément de site à donner précisément.
Et si on parle maintenant de toute seule Marie-Noël Coulon, projet 2014-2015.
Projet 2014-2015, bon, mais bien sûr Bagatelle. D'autres spectacles autour de Florilège, autour de Jean Ferrat, pour l'automne, dans le Lot par exemple. Et d'autres projets, alors un projet un peu spécial, un peu particulier, que l'on est en train de mener avec Boris.
Boris Lugan, voilà, qui est venu aussi à cette émission.
Et oui, qui est venu il y a quelques temps, c'est vrai. Oui. Nous nous sommes lancés dans l'électro-lyrique.
Ah, d'accord. Et alors, si une minute, tu pourrais nous expliquer tout cela, parce que on nous reste.
Parce que le temps court, hein, oui. N'est-ce pas? Oui, c'est très. Ce n'est pas fumeux, hein, ne le pensez pas, mais c'est conceptuel en tout cas. Boris peint in situ, c'est ce qu'on a fait par exemple la semaine dernière dans une galerie. En amont, toute une bande électronique est créée. Dans cette bande, des influences lyriques sont rajoutées, insufflé, donc moi je participe ponctuellement en fait à cet événement en chantant. Le piano pas encore, mais c'est en on va y songer parce que le piano permettrait de créer une ambiance supplémentaire en fait.
Oui, voilà. Donc il crée une œuvre à la fin de ta performance, on pourrait dire.
Oui, à l'arrivée, les gens ont assisté à un concert, en tout cas une prestation musicale qui joue sur plusieurs tableaux, parce que l'électronique, c'est de la musique, on va dire, contemporaine, actuelle, et le lyrique, voilà. Et à la fin, vous avez une œuvre picturale qui rassemble un petit peu toutes ces influences.
Merci beaucoup, Marie-Noël Coulon.
Merci, Rosendo.
Merci Aurélien aussi à la technique et je vous dis à la rentrée de septembre puisque nous avons les vacances estivales et je vous remercie. À bientôt.
Merci.
Voilà, c'était la dernière des rendez-vous de Rosendo, la dernière pour la saison. On le retrouvera avec plaisir en septembre. Vous pouvez retrouver l'ensemble des podcasts sur cfmradio.fr.